Dialogue sur la mort. Une émission proposée par Christian de Cacret.
Amis auditeurs des Dialogues sur la mort et donc sur la vie, bonjour. Notre invitée aujourd'hui est une femme qui s'est donnée comme ambitieuse mission de transmettre la joie. Pour cela, elle a créé un personnage prénommé Annabelle, issu du clown, qui met en valeur deux grands yeux et une grande bouche qui irradie d'un sourire irrésistible. Et voilà que l'audace d'Annabelle porte loin jusqu'aux frontières entre la vie et la mort, notamment pendant des années dans les services de soins palliatifs. Art thérapeute, elle va nous dire dans les 12 minutes qui viennent comment nous pouvons tous et toutes, où que nous en soyons de notre existence, être habités par la joie. Sandra Meunier, bonjour.
Bonjour.
Je vais aller droit au but. Dialogue sur la mort nous y oblige. Est-il possible de vivre la joie au seuil de la mort?
Et c'est ça qui est incroyable. Et oui, je l'ai vécu. Enfin, en tout cas, les patients l'ont vécu. Et je suis un témoignage vivant de cela. Par ailleurs, je voudrais surtout pas qu'on idéalise ce moment. C'est un moment qui est parfois très difficile et puis très douloureux physiquement. Mais j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui ont vécu la joie. Alors, de quelle joie parle-t-on? Déjà, c'est une grande joie. Hein. C'est une joie profonde, sans objet, forcément. Hein. Mais comment ils ont vécu cette joie? Pourquoi ils l'ont vécu? Eh bien, en fait, c'est la plus grande des joies, vraiment. Mais c'est la joie du lâcher-prise.
Est-ce qu'on peut l'illustrer dans du concret?
Oui.
On imagine, et vous pouvez remémorer une situation particulière, vous entrez dans une chambre, vous êtes dans un habit.
Alors je suis transformée, puisque c'était ma mission. En tout cas, je suis transformée, je suis en couleur, je suis pailletée, je suis toute blanchie et très souriante et très colorée. Et je me souviens de cette patiente qui, pour moi, représente la plus grande joie. Et j'ai la voir déjà, elle était très lumineuse. Hein. À mon contact, elle était vraiment très, très maigre, très affaiblie. Elle était très souriante. Donc, quand je suis allée la voir, j'ai dit bonjour. Elle était très heureuse de voir cette couleur. Et je m'intéresse à elle, à sa profondeur. J'ai dit, oh, c'est un voyage ce que tu traverses. Parce que quand je suis en personnage, je tutoie. Ça peut paraître bizarre, mais je tutoie. Et elle me dit, oh, oui, c'est un voyage. Et puis, de fil en aiguille... On parle et puis je ressens une grande dimension d'amour en elle. Alors j'ai une playlist musicale toujours sur moi, j'ai une petite enceinte et je vais mettre la playlist amour, grand amour. Et je lui dis, ça te dit qu'on parte en voyage? Elle me dit oui. Et je mets une musique vraiment de grand amour. Et là elle ferme les yeux. Je l'invite à respirer profondément et puis il y a une partie d'elle, je lui dis, il y a une partie de toi qui peut être très légère. Et tu deviens légère, 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 tu montes, tu viens très très légère et monte encore. Et là, tu vas là où tu as besoin d'aller. Et ça a duré peut-être 10 minutes et je la sentais tellement bien. Et puis après, elle a ouvert les yeux et je l'ai regardée. Elle était comme transfigurée, enfin un état de joie et d'amour total. Et je lui ai dit, est-ce qu'on peut dire que là, c'est la plus grande joie que tu as vécue? Alors qu'elle était quand même squelettique, en fin de vie. Elle m'a regardée, elle m'a dit, oui. J'ai dit, c'est la joie du lâcher prise. Oui.
J'ai entendu dans votre récit l'expression, elle est allée là, tu es allée là où tu as besoin d'aller.
Oui.
Ça veut dire qu'il y a une attente, il y a une soif, qui est que dans ce voyage intérieur, il y a quelque chose de l'ordre d'un non-dit pour vous aider à émerger.
Oui, et en tout cas, ma volonté, c'est surtout pas contrôler, et c'est surtout pas amener dans un endroit qui, moi, me semblerait le plus juste. Je ne sais pas ce qui est juste pour la personne. Et je veux laisser... Alors, c'est une grande approche spirituelle, on voit bien qu'on est au cœur d'une spiritualité, mais je veux pas la nommer. Là où tu as besoin d'aller, c'est très, très vaste, c'est grand, mais je ne sais pas où c'est. Et donc, je l'ai laissé faire, mais... Elle est allée dans la lumière.
D'où vous est venu ce charisme et cette mission de la transmission de la joie et déjà de l'incarner? Ça remonte et à quoi? À quels événements?
C'est un grand chemin intérieur. Ça a été identifié, vraiment le mot joie a été identifié, je pense qu'il y a plus de 20 ans. Et puis avant, c'était plutôt la recherche de paix, on va dire. Et puis après, j'ai vraiment resserré en disant non, mais en fait, c'est la joie. La joie profonde qui est la paix aussi. Hein. On peut l'appeler la sérénité. C'est un chemin de conscience, c'est un chemin parce que depuis que je suis enfant, je veux aider. idée et en fait, mon désir vraiment le plus grand quand j'étais enfant, c'était que tout le monde soit heureux. J'avais vraiment ce désir très fort. Et puis donc, de tout le monde soit heureux, bah, je me suis dit, oulala, et moi, est-ce que je suis heureuse? Et j'ai perdu la joie. En plus, j'ai eu un moment difficile dans ma vie à l'adolescence. À 20 ans, j'ai failli mourir. Donc j'ai eu quand même des preuves fortes.
Est-ce que vous diriez que la joie s'accueille, se cultive, voire se décide aussi? Dans tous ces ingrédients, lequel vous paraît le plus important? Disponibilité?
Oui, bien entendu, la joie se décide, mais pour le décider, il faut avoir des sacrées ressources. Et je pense toujours aux personnes, parce que j'en ai rencontré, qui vivent des drames, hein, quand on perd son enfant, enfin, ou quand on vit des choses excessivement difficiles. Et à l'hôpital, j'ai rencontré l'extrême souffrance. Hein. Donc, ça se décide, si on est bien accompagné aussi. Et puis, en tout cas, je dis toujours, la joie, ça se respire. Il y a des portes d'entrée. On a l'impression que la joie n'est plus possible par moment. Et je pense à tous les auditeurs qui souffrent. Il y a des grandes souffrances actuellement aussi. Et on croit qu'elle n'est plus possible, mais elle est toujours possible. Et c'est ça que les patients m'ont appris. Mais c'est une grotte au fond de soi. Donc il faut juste... Enfin, juste. Il faut descendre au plus profond de soi ou alors au contraire s'élever, ça dépend comment on vit les choses. Mais en tout cas, il y a toujours un chemin. Parce qu'au départ, on est joie. Enfin, en tout cas, c'est ma conviction et ce n'est pas que la mienne.
En vous écoutant, je pense à ma propre expérience. Mmh. Ce n'est pas habituel de l'évoquer, mais je le fais là, celle des obsèques. Et c'est vrai qu'il y a une forme de joie. Mmh. Une joie qui ressemble à une forme d'accomplissement, celui d'avoir rendu un bel hommage, celui de s'être rassemblé, d'avoir dit autant de belles choses sur la vie du défunt. Quel parallèle vous faites entre ce que vous avez pu vivre aux côtés des mourants et ce que je vous décris au moment des obsèques?
Eh bien, je suis d'accord. D'abord, je dirais qu'il y a la joie et le sens. Pour moi, la plus grande joie, c'est liée au sens. Donc là, ce dont vous me parlez, c'est le sens d'une vie, le sens d'avoir accompagné jusqu'au bout. Donc oui, ça donne un sens. Et puis en même temps, ce que j'entends aussi, et je pense que c'est une des plus grandes joies, c'est ce que j'ai identifié il n'y a pas tellement longtemps. Je me dis, mais en fait, la plus grande des joies, c'est quoi? C'est la communion. Alors la communion au sens large, hein, c'est-à-dire quand je communie avec les arbres, avec la nature, alors communier, ça veut dire quoi? Être en lien de cœur et c'est bien ce qui se passe dans les enterrements. On est à un moment donné, il y a un sentiment d'unité. Et c'est ça la grande joie en fait, c'est l'unité.
Moi, je suis sensible particulièrement à ce que vous avez dit sur le sens. C'est vrai qu'on est dans un monde en quête de sens. Oui. Il y a tellement d'événements autour de nous qui, justement, manquent de sens. Et on sent, notamment dans les vies professionnelles, chez les jeunes, cette quête de sens. Comment est-ce qu'on peut contribuer, vous-même, dans votre association Nétoile, donc, que vous avez fondée, et vous essayez d'essaimer? Vous êtes des diffuseurs de sens?
Oh oui, complètement. Mais parce que j'ai toujours pensé que la plus grande joie, c'était quand même être en paix, et donc la paix vient avec le sens. Quel est le sens d'une vie? Quel est le sens de ma vie? Comment je peux donner du sens? Et aussi à l'hôpital, c'est quel est le sens de cette traversée? Parce que c'est certain, on va tous mourir, mais on va pas mourir de la même manière. Et la question du sens est essentielle. Et c'est vrai que dans mon association, oui, Nétoile, quand je donne des formations, c'est autour d'un processus de transformation et autour du sens profond, mais bien entendu. Mais je pense que c'est la grande joie, trouver le sens.
Vous l'avez trouvé, le sens de votre vie, Stéphane Remenier?
Ah oui. Mais c'est pour ça que je suis tellement en joie.
Vous pouvez le ramasser.
Le sens... mais le sens, pour moi... Le sens de ma vie, en tout cas, ce qui me... c'est d'amener... Enfin, comment dire... C'est d'amener la joie-paix. Oui, ça donne du sens à ma vie. Et donc, pour moi, tout tourne autour de cet axe, hein, quand même. Le sens, c'est de considérer ma vie comme une offrande. Et si les personnes pouvaient vivre leur vie comme une offrande et comme un cadeau, les gens seraient beaucoup plus heureux. Mais en fait, c'est ça, le sens. Quel est le sens d'une vie? Eh bien, c'est comme le sens d'une fleur. Une fleur, elle s'offre à la vie. Eh bien, est-ce qu'on pourrait considérer notre vie comme une offrande et comme si on était des fleurs, des arbres? Et ça donne beaucoup de sens. En tout cas, c'est le sens que j'y donne, oui.
Qu'est-ce qui obstrue le chemin vers ce que vous décrivez? Parce qu'en vous entendant, on se dit, oui, au fond, c'est ça. Mmh. C'est le don de soi qui peut me rendre heureux ou heureuse. Mais qu'est-ce qui est obstacle?
L'obstacle pour moi, c'est les grandes épreuves de la vie. Quand parfois, tout à l'heure, je le disais, un arrachement, par exemple, la perte d'un enfant, je pense à ça, mais ça peut être la perte d'un conjoint. Enfin, les drames dans la brutalité, je pense que ça, ça peut mettre un obstacle. Il y en a plein des obstacles. Il y en a plein aussi.
Vous évoquez aussi souvent l'ego, hein?
Ah ben oui, mais de toute façon, le plus grand obstacle, c'est l'ego, mais l'ego, elle doit souffrir quand même. Hein. Mais bien sûr, de toute façon, l'obstacle, la grande joie, c'est l'ego. Ben, y a que l'ego, mais on peut le dorloter, on peut accueillir que l'ego soit en souffrance. De toute façon, c'est la première des choses à faire quand on traverse une période difficile, c'est prendre dans ses bras cette expérience difficile et dire c'est là, mais je t'accueille, je t'embrasse, et puis après, il va falloir retrouver le chemin par X... moyen.
Dans la minute qui nous reste, j'ai envie de vous proposer de nous dire comment vous pouvez ou vous traitez cette anxiété qui peut naître des nouvelles du monde. Comment est-ce que vous la transformez en joie? Comment est-ce que vous ne vous laissez pas atteindre par une sinistrose et une désespérance?
D'abord, j'accueille que parfois je pleure. Mais je suis dans une dimension de compassion. Quand je dis compassion, c'est-à-dire que je ne suis jamais dans une joie sortie du contexte. C'est une joie inclusive. Donc, ça n'arrangerait pas le monde que je sois triste. Et cette pensée, je l'ai vraiment de manière très forte. Donc, ma plus grande mission, c'est de garder le cap de la joie, même si ce monde va mal. C'est le plus grand cadeau que je puisse offrir. Donc, et j'invite tout le monde à réfléchir à ça. Est-ce qu'on peut offrir le plus grand cadeau? Mais parfois, c'est la grande joie et parfois, c'est juste un sourire. Quelqu'un qu'on croise dans la rue, on lui fait un sourire. Peut-être ça le plus grand cadeau, en fait. C'est de garder ce cap.
En tout cas, moi, ce que je relève, c'est la part de la volonté, du désir, et de renouveler ce désir.
Je dois dire que c'est un chemin. Parfois, les gens ont des idées toutes préconçues sur ma vie en disant « pour elle, c'est facile ». Ah non, je dirais que j'ai jamais dit que c'était facile. Mais effectivement, on reprend cette question que vous me posiez au début. Est-ce que c'est une décision? Oui, c'est une décision. Et sans cesse renouveler. Mais peut-être aussi, ma grande chance, c'est de pouvoir aussi me décentrer et de me dire que si j'apporte du bonheur à quelqu'un, je vais retrouver aussi ma joie. Ça peut être aussi ça. Hein. S'intéresser plus aux autres qu'à soi-même aussi.
En tout cas, pour tous les croyants qui nous écoutent et qui vivent ce carême, peut-être que c'est une belle décision que de se dire on va vivre un carême joyeux et devenir davantage épandeur de joie. Sandra Meunier, merci.
Merci beaucoup.
Nous continuons nos programmes avec Halte spirituelle, avec Madeleine Vatel.
Et aujourd'hui, nous revenons sur ce moment de communion qu'est la messe. Et pendant ce temps de carême, peut-être l'occasion de réfléchir sur ce que nous pouvons vivre chaque jour, chaque dimanche, avec la communauté. À tout de suite.